Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Hommes et femmes, il les créa. Donc il s'agit de ce que l'on trouve dans le premier récit de création, au livre de la Genèse. Dieu, hommes et femmes, il les créa. Et donc d'emblée, il y a, d'abord il va y avoir la place éminente de l'homme, mais de l'être humain, mais est posée cette différence, cette complémentarité entre l'homme et la femme, donc entre le premier récit en Genèse 1 et le deuxième récit en Genèse 2, on va avoir un certain nombre d'éléments qui seront dits de façon différente, avec des styles, des genres littéraires, dirait-on, assez différents, sur l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme, et le catéchisme nous dit, dans une parfaite égalité, en tant que personnes humaines, d'une part, et d'autre part, dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, être femme, est une réalité bonne et voulue par Dieu. Aujourd'hui, c'est une question qui, finalement, pose un certain nombre de... peut gêner certains qui ont l'impression qu'on insiste sur la différence entre l'homme et la femme, et qui, comme si cela sous-entendait une inégalité que l'on pourrait justifier, ce qui n'est pas ce que dit le catéchisme d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et c'était frappant, au début tu as été obligé de préciser le mot « homme » en disant « être humain », parce qu'il y a le mot générique « homme ». En latin, l'avantage, c'est qu'il y a deux mots différents, en grec aussi, mais en français, nous avons la pauvreté de notre langue qui fait que le mot générique « homme » et le mot spécifique « homme » masculin est le même mot. Et du coup, il y a eu parfois des doutes qui ont pu planer sur ce fait qu'en s'adressant à l'ensemble de l'humanité sous le mot « homme », on risquait d'oublier la femme. D'où certains qui réclament des langages inclusifs, comme on dit, où on répète deux fois les choses en disant une fois au masculin, une fois au féminin, pour ne bien montrer qu'on n'oublie pas les femmes. Mais la langue de nos pères ne voulait en rien faire une opposition. C'est tout simplement, au contraire, de rappeler l'unité des deux. En disant « homme », on désignait et l'homme masculin et l'homme féminin, c'est-à-dire au sens la femme. Et du coup, il n'y avait pas cette opposition. De nos jours, des courants, je dirais, non formés par la tradition biblique, ont tendance à vouloir exacerber les différences, exacerber les oppositions. Mais ça n'est pas dans le projet divin. Le projet divin est un projet de complémentarité, un projet d'orientation, en effet, l'un pour l'autre, et le mariage est un don total de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Il ne doit pas y avoir domination de l'un sur l'autre, mais stimulation de l'un par l'autre pour avancer ensemble dans ce projet de vie qu'est la famille, d'où viennent des enfants, d'où vient la fécondité. Et c'est très important de voir que Dieu crée la différence en vue de la fécondité. Je crois que ça, à partir du moment où on comprend le projet de Dieu, eh bien, les choses reprennent leur place. Et s'il a fait dans la famille un chef particulier qui est l'homme masculin, c'est tout simplement qu'on voit bien que lorsqu'on est en démocratie, que l'on discute, on le discute, à un moment, il faut trancher. Et c'est vrai que c'est plus facile d'avoir choisi l'un des deux pour, je dirais, orienter la responsabilité plus rapidement. Mais les deux sont égaux de nature, les deux sont tout à fait dans le même projet de Dieu. Et il faut le souligner dans le débat actuel qu'il n'y a pas aucune volonté de mettre une sorte de domination de l'homme sur la femme. Les paroles d'Adam sont très claires, c'est des paroles d'amour et de communion. En voyant Ève, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, s'exclame-t-il. C'est un cri d'amour, et c'est un cri de reconnaissance. Il se reconnaît en Ève comme Ève se reconnaît en Adam. Et cette reconnaissance mutuelle permet le don réciproque, la fécondité, dans une orientation qui est voulue par Dieu et qui doit être maintenue.
Cette distinction homme-femme renvoie des fois à des questionnements et des raisonnements qui, à mon avis, sont un peu illusoires, n'ont pas de sens sur... Dieu, la gêne de dire Dieu est assimilé à l'homme. Le catéchisme dit Dieu n'est aucunement à l'image de l'homme, il n'est ni homme ni femme. Donc dans le premier cas, à l'image de l'homme, ça correspond bien au terme générique dont tu parlais tout à l'heure. Il n'est ni homme ni femme, là c'est donc
la différence spécifique.
Oui. Dieu est pur esprit en lequel il n'y a pas place pour la différence des sexes. Mais les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu. Je trouve que c'est important de se redire ça. Les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu, celle d'une mère et celle d'un père et époux. On retrouve donc c'est de comprendre quelque chose de Dieu à partir de la manière dont on projette des perfections. Dieu, les réalités humaines pour en trouver la perfection.
Oui, c'est tout à fait exact. La création de l'homme, bien qu'il soit à l'image et ressemblance de Dieu, ne suffit pas par seulement l'homme masculin à répondre de cette image. Cette image serait incomplète. Il faut aussi l'image de Dieu dans la femme pour que la complétude soit réalisée. Et la tradition hébraïque est très belle puisque elle donne le titre de Ish à l'homme et de Isha à la femme en rajoutant un He final qui est une lettre du tétragramme, l'air de dire que dans le fond c'est parce qu'il y a la femme que les deux vont pouvoir d'une certaine manière toucher à la véritable complétude. Tant qu'on n'a pas le He final, je dirais, on ne peut pas réaliser cette complétude jusqu'à Dieu. Donc il y a quelque chose de très grand dans la création de l'homme et de la femme.
Je précise une chose. Donc, tu disais qu'on ajoute à Ish, qui veut dire homme, cette lettre, à Isha. Oui. Et tu disais donc parce qu'il y a une lettre du tétragramme. Je rappelle que le tétragramme, ce sont ces quatre lettres. Oui. Imprononçable en tant que tel, par lesquels on désigne
Dieu lui-même. Oui, et c'est vrai que on voit bien dans la Bible, de temps en temps, Dieu apparaît comme un père, hein, et de temps en temps, il apparaît comme avec la tendresse d'une mère. Hein. Lorsque le prophète Isaïe s'exprime, on voit bien qu'il y a la tendresse d'une mère qui se penche vers ses enfants, qui les garde sur son sein, qui les protège. Et Jésus lui-même a des analogies en parlant de lui-même à la fois masculine et féminine. Lorsque il se compare, par exemple, à la poule qui garde ses petits oisillons, c'est évidemment un symbole féminin. Et d'autres symboles sont éminemment masculins dans les autres grandes catégories, je suis le bon pasteur, je suis le chemin, je suis la vérité, mais il dira aussi je suis la vie, et c'est un symbole féminin. Donc Jésus lui-même, en parlant de ce qu'il est et de sa divinité qu'il nous révèle, utilise lui aussi un langage qui est et masculin et féminin, parce que Dieu transcende évidemment cette différence des sexes, et surtout ne les oppose jamais. C'est ça que je crois le grand message biblique, c'est qu'il veut détruire toute opposition, toute révolte, et la révolte devant laquelle nous sommes un peu attristés de nos jours à travers l'idéologie du gender montre bien qu'au lieu d'aider l'humanité à avancer, on l'a fait régresser dans une agressivité de revendication.
Et je vois dans l'article 373 que, on dit dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendant de Dieu. Ce qui, je mentionne cela parce que en cette année où nous portons attention sur la question de écologique, sur la question de la création, c'est le rapport. Le rapport de l'homme et de la femme sur la création est ici les deux, si on lit bien ça, les
Oui.
deux sont là comme intendants de Dieu, souveraineté qui ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice, quelque chose que nous avons besoin de nous souvenir à l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe.
Oui, une fois encore, Dieu nous apprend à dominer notre domination, c'est-à-dire il nous apprend ses lois, il nous apprend sa façon d'être, ses mœurs, les mœurs divines. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, dit le grand Athanase, et déjà d'une manière aussi évocatrice chez saint Irénée. Il y a un projet divin, et ce projet divin nous montre Dieu qui est tout-puissant et qui va se faire petit dans l'enfant Jésus, qui va se rendre accessible dans une simple hostie, lui le Tout-Puissant. Et cette façon de se comporter nous apprend la sobriété, nous apprend une manière de vivre comme intendant de Dieu, non pas comme des dominateurs, mais comme des personnes qui viennent en aide. Nous sommes des aides à la nature. Nous la complétons, nous l'orientons, nous la rendons belle et féconde, et nous permettons au projet de Dieu de s'y inscrire de la manière la plus belle possible. Cette intendance, cette gérance nous laisse beaucoup de liberté, mais que faisons-nous de cette liberté? Et je crois que c'est la grande question de l'écologie de nos jours, c'est que cette grande liberté qui était à la disposition de l'homme, parfois, a été une occasion de dérive. Tout est permis, comme disait saint Paul, mais tout n'est pas favorable. Et en écologie, c'est ô combien vrai. C'est pas parce que nous avons une grande liberté que Dieu nous a donnée que nous devons perdre le sens que nous ne sommes seulement que des gérants, des lieutenants. Nous tenons lieu de Dieu, mais nous avons à respecter ses lois et à tout remettre à lui.
Dominer notre domination, c'est un beau programme spirituel en beaucoup de choses.
Oui.